réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture et Un autre jour est possible en ce vendredi 29 avril. Depuis lundi, en compagnie de l'artiste photographe Alain-Gilles Bastide, on parle de Tchernobyl parce qu'il s'est rendu à Tchernobyl et il nous raconte donc ce qu'il a vu. Aujourd'hui, il nous raconte comment on revient d'un voyage aussi particulier que le voyage qu'il a fait il y a quelques années à Tchernobyl. En deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, on parlera des maillots pour l'Algérie avec un des acteurs de cette bande dessinée, je vous dis pas lequel, et les deux scénaristes, donc Chris et Bertrand Gallic. Tout de suite, tête chercheuse.
Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала.
Paysage de Tchernobyl, 30 ans après, avec Alain-Gilles Bastide.
Что ты там робила, что ты там робила?
Paysage de Tchernobyl, 30 ans après. Alain-Gilles Bastide, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment filmer, comment prendre photo, comment rendre compte de ce qui se passe à Tchernobyl 3 décennies après l'accident nucléaire? Il y a une photo qui m'a beaucoup bouleversé, c'est cette photo. C'est une photo d'école. On se dit, est-ce que cette école a été abandonnée le matin du mardi 26 avril 1986 et tout est resté en état, ou est-ce qu'il y a eu autre chose, d'autres événements?
Non, c'est resté un état, si on peut dire. C'est-à-dire là, on voit que ça a été donc pillé, mis en désordre et tout, quoi. Qu'il y a des livres encore qui sont sur la place, sur leurs étagères, etc. Et il doit y avoir des trousses probablement d'élèves sur leur bureau, etc. Mais voilà, tout d'un coup, il faut s'imaginer, on est à l'école, parce que là, les enfants étaient à l'école et on vient leur dire, vous êtes à l'école, vous êtes au restaurant, vous êtes dans votre vie normale et on vient vous dire, il y a des gens qui arrivent. Et qui vous dit, on part tout de suite, on part. On discute pas, on part. Et on laisse tout tel quel et on part. Ben voilà, c'est ce départ-là, c'est cette confiscation-là. La confiscation à des élèves qui, dans cette salle de classe, comme une salle de classe de chez nous, avec toute la poésie et tout ce qui va autour de l'enfant et voilà, qui confisqué, ils partent, c'est laissé tel quel. Et après, passent les pilleurs dont je parlais dans un autre épisode. Et effectivement, il y a des endroits comme une école, une salle de classe de jeunes enfants, je sais pas moi, là, ça doit être c'était l'école maternelle là, de la photo à laquelle vous faites référence. Bon bah, il n'y a pas de grandes choses qui peuvent se vendre très très cher, quoi. Peut-être à part les tables et encore. Mais en tout cas là, elles étaient encore là. Mais c'est pas les dessins d'enfants qui sont accrochés au mur, tout ça qui va se vendre. Donc ça reste là.
Que vous disait votre appareil? C'est un endroit toujours radioactif?
Oui, cet endroit est toujours radioactif. Il faut pas y rester énormément, quoi. Bon, il faut pas y camper, quoi. On peut y passer sans trop de danger, mais il faut pas y rester trop longtemps.
Extrait d'une étoile nommée Absinthe, Tchernobyl, du 10 décembre 2000, par René Farabet.
Soigner un enfant, c'est 28 dollars pour un enfant, 28 dollars. Bon, il y a 500 000 enfants dans ces conditions. Avec deux journées de bombardement sur la Serbie, vous pouvez financer 15 ans de traitement pour 500 000 enfants biélorusses. L'argent pour détruire les vies existe.
Vladimir Tcherkov.
Pour aider à vivre, on dirait qu'il n'existe pas. Si la mer est polluée, si la mer mange du mauvais lait, si elle mange de la mauvaise viande, des champignons, etc., le placenta devient une espèce de thermos chargé de radioactivité qui bombarde le fœtus. Déjà, il y a beaucoup d'enfants qui ne naissent pas du tout, parce qu'il y a des avortements provoqués, parce qu'on sait que ce sera un monstre. D'autres naissent déjà avec des malformations. Mais une fois que l'enfant est né et que la mère l'allait au sein, la mère se libère de sa radioactivité à travers le lait sur l'enfant.
Alors cette mémoire confisquée, puisque c'est un peu l'objet de votre reportage, c'est aussi de rencontrer, d'aller à la rencontre de ceux qui ont vécu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Est-ce qu'ils parlent facilement, Alain Gilles Bastide? Est-ce que vous avez réussi à reconstituer à partir de témoignages des scènes vécues, des destins brisés par cet accident nucléaire?
Ben, j'ai réussi, oui, à les imaginer, bien sûr, hein, sur mon chemin, tant au village Tchernobyl qu'à Pripyat, que dans d'autres villages ou Kolkhoz autour de Slavgorod. Encore une fois, bon, photographiquement, pour montrer l'invisible, il faut prendre des chemins. Il faut inventer des chemins, quoi, et graphiques et photographiques. Et dans la mémoire confisquée, sur laquelle on a terminé hier, l'exemple que je donnais, mais c'était que je parlais, je crois, de la première mission de l'armée, de ce côté, dont on confisque les images. Il faut pas se souvenir de ça. Il faut pas que ça ait existé. Dès le départ, c'était la mission numéro un, c'est pas la décision d'un militaire qui est envoyé sur les lieux. Ça vient de là-haut. Il y a une raison que ce soit la première mission. Et elle a été réussie, cette mission-là. Il n'y a pas d'image de ce qu'on racontait, qui fasse apparaître justement tout d'un coup cette confiscation de la vie, du temps qui passe. Et on essaie de le cacher. Et le sarcophage illustre bien ça. Le sarcophage, c'est voilà, il y a le réacteur là qui a pété. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y met un sarcophage dessus pour pas qu'on le voie. On le met hors la vue. Il ne faut pas voir ça. Alors bien sûr, bon, ça protège des poussières, de ceci, certaines émanations, ce qu'on veut, mais il faut pas le voir. Et ce qui a intéressant, c'est que le sarcophage, c'est un tombeau qui avait la disons, on y attachait, on attache au sarcophage la vertu de manger, de manger le mort, si vous voulez, de consommer le mort. Et là, c'est ce qui se passe, c'est le contraire, c'est le réacteur qui bouffe le sarcophage.
D'où l'idée de faire deuxième sarcophage.
Voilà. Donc, il n'a pas suffi. Il est mangé par la bête, si vous voulez. Et on lui met un autre sarcophage dessus. Une construction complètement gigantesque, qui est assez médiatisée. Un peu médiatisée. Tout le monde, à peu près, doit avoir quelques références. C'est une entreprise française qui fait ça. Ou deux. Et qui mettent là un sarcophage, qu'ils construisent un peu plus loin, parce qu'on ne peut pas aller travailler, on ne trouve plus. Il y a eu à peu près 800 000, disons 800 000, entre 600 000 et 1 million de personnes qui ont construit ce sarcophage, qui ont été sacrifiés. On les trouve plus. Ça a été possible parce qu'on était en URSS, sous l'Empire, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on ne les trouve plus. Donc, même aujourd'hui, donc 30 ans après, ben c'est encore trop dangereux, personne ne veut y aller, donc on le construit un peu plus loin, on le fait glisser sur des rails et on le fait enterrer le sarcophage existant. Donc on en est au stade du sarcophage, vous voyez, c'est cette dimension de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est un truc qui change les dimensions totalement, quoi.
Это вот то, что происходит, когда я говорю, что Чернобыль выбросил нас в какую-то совершенно другую реальность.
Светлана Алексеевич.
Потеря реального ощущения между реальным и нереальным и стирание граней между всей живой жизнью. Это тоже очень важно в этой книге и тоже в этом русле. Между человеком и цветком, животным. То есть как бы появляется уже одна ценность, просто жизнь живая.
Cette confusion entre le réel et l'irréel provient du fait que les frontières entre les espèces s'effacent. Il ne s'agit plus d'humains à part, animaux à part, insectes à part, fleurs à part, etc. Parce que, en quelque sorte, nous subissons tous le même sort. On sent beaucoup plus fort l'interdépendance, et maintenant il faut plutôt parler en termes de vie en général. Et ça, c'est complètement nouveau pour l'homme.
Et вот littérature, как бы, répétait l'apocalypsis, особенно américaine, да, и все литературы упражнялись в этих концах света, да? Но реальность сама гораздо фантастичнее.
Différentes littératures ont fait beaucoup d'exercices de style pour décrire l'apocalypse, la fin du monde. Et pourtant, personne n'a prévu cette forme d'apocalypse plus fantastique que tout ce qu'on a pu inventer.
J'ai appris et senti à Tchernobyl quelque chose dont je n'ai pas envie de parler.
Est-ce que les gens, à votre retour en France, Alain Gilles Bastide, portaient un autre regard, puisque vous reveniez de cette région contaminée?
Oui, c'est vrai, c'est arrivé. J'en étais averti par des gens qui étaient allés là-bas, mais je ne le croyais pas trop, mais de le vivre, ça m'a quand même... J'ai effectivement quelques amis, des gens que je voyais souvent, que je ne vois plus, que j'ai plus vu après Tchernobyl, qui avaient plus la même... qui ne m'invitaient plus comme ça, à prendre un pot, à boire une bière ou à manger chez eux. Et il y en a même deux, je me souviens, qui refusaient de m'embrasser, quoi. Ils ne m'embrassaient pas, quoi. Donc j'étais devenu un Tchernobylien. Ça m'a fait très rigoler, mais bon, voilà, je suis un Tchernobylien.
Paysage de Tchernobyl, 30 ans après, avec Alain Gilles Bastide. L'intégralité de la série est désormais disponible sur franceculture.fr. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre expérience de ces 3 semaines passées à Tchernobyl. Je rappelle le titre de votre ouvrage, de votre carnet de voyage en texte et en photo. Et c'est une auto-édition, Tchernobyl Forever, carnet de voyage en enfer. Merci beaucoup.
Merci.
Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et aujourd'hui, l'actualité de la bande dessinée avec comme invité 2 scénaristes, rien de plus normal. Et un footballeur, un ex-footballeur, voilà qui est inhabituel. Ce footballeur, les moins de 70 ans ne le connaissent sans doute pas, mais il fut une star dans les années 50. Son nom, Rachid Merloufi. Un maillot pour l'Algérie, édité dans la collection Air Libre de chez Dupuis, dessiné par l'Espagnol Javi Rey et scénarisé par les 2 Bretons, Bertrand Gallic et Chris, raconte une page de l'histoire de France et d'Algérie à travers celle de Rachid Merloufi, justement le footballeur de Saint-Étienne, et comment, en 1958, à la veille de la Coupe du Monde en Suède, avec une dizaine d'autres footballeurs de première division, il va quitter clandestinement la France et rejoindre les rangs du FLN pour créer la première équipe algérienne de football et d'en faire l'ambassadrice de l'indépendance à travers le monde.
ça part de loin, c'est qu'on rêvait depuis longtemps avec Bertrand de créer une collection de récits documentaires et sportifs en bande dessinée, ce qui n'existait pas encore, parce qu'on était adepte de cette bande dessinée documentaire qui se développe depuis une quinzaine d'années maintenant, et on cherchait des sujets rassemblant sport, politique, social, enfin voilà, quelque chose qui nous parlait du monde dans lequel on vit, et ben, on s'est décidé à chercher, voilà, quel genre d'histoire on pouvait raconter, et la suite appartient à Bertrand, donc je le laisse évoquer la découverte de cette histoire.
La découverte de cette histoire s'est faite sur le net, pour rien de vous cacher, parce que ni Chris ni moi-même n'étions au parfum de cette incroyable aventure de la toute première équipe nationale algérienne de football. Et bon, sur le net, ce qui se passe souvent, c'est qu'on ouvre un premier document qui en renvoie vers un deuxième, qui lui-même renverra un troisième, etc. etc. Et plus le temps avançait devant cette ordinateur, et plus je me disais qu'il y avait un potentiel énorme autour de cette histoire-là. J'ai appelé Chris pour lui en faire part, et il m'a
mais
dit...
Mais j'insiste, c'était quoi le point de départ? Parce que moi, je connais des gens qui ont découvert l'histoire de Rachid Merloufi uniquement en voyant une interview, en écoutant Cantona dire « Pour moi, le courage, c'est ce qu'a fait Rachid Merloufi », et qui ont remonté le fil de l'histoire. Mais vous, comment êtes-vous? C'était quoi la porte d'entrée?
Alors, Eric Cantona a hyper raison, mais je suis absolument incapable là de vous dire quel est le premier document sur lequel je suis tombé.
Mais alors, à la limite, le plus important, c'est de savoir pourquoi ça a fait tilt. Dans l'esprit de deux jeunes bretons, a priori fort éloignés de toute cette aventure, pourquoi moi ça a fait tilt tout de suite quand Bertrand m'en a parlé? C'est que le tout premier match de Coupe du Monde que j'ai vu dans toute ma carrière d'apprenti footballeur et de passionné de football, c'était Algérie-Allemagne en 1982. J'avais 10 ans, j'habitais dans un quartier à Brest qui s'appelle le Petit Paris, j'avais plein de copains algériens, et j'ai regardé ce match avec tous mes copains algériens, et ce jour-là, je peux vous dire que j'étais algérien jusqu'au bout des ongles, et ça m'est resté ancré en moi, hein. Ça a toujours été une équipe qui a été spéciale pour moi, d'autant plus qu'après elle a été éliminée dans les circonstances que l'on sait, très injustes, que cette même équipe d'Allemagne a ensuite éliminé la France et que pour une fois, l'Algérie et la France étaient réunies dans la même injustice. Et quelque part, quand Bertrand m'a raconté cette histoire, au-delà du fait qu'elle réunissait tout ce qu'on avait envie de faire, il y avait cette accroche personnelle qui me disait « mais je vais rendre justice à une équipe d'Algérie ».
Bonjour Rachid Merloufi.
Bonjour, vous m'avez réveillé.
Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre histoire dans une bande dessinée?
Eh ben, c'est bizarre parce que d'habitude je regarde Mickey, je regarde toutes ces bandes dessinées, mais là je me revois et je me vois comme partie prenante de cette BD et ça me fait énormément plaisir. Et surtout, je pense que ça va faire plaisir aux supporters de l'AS Saint-Étienne, aux supporters algériens et aux supporters français.
Rachid Merloufi, il y a deux moments très forts dans cette bande dessinée. Le premier moment, c'est bien sûr quand vous décidez, alors que vous êtes très connu, que votre carrière de sportif et de footballeur est installée en France, quand vous décidez donc en avril 1958 de quitter clandestinement la France pour rejoindre l'équipe du FLN, l'équipe de football du FLN en pleine guerre d'Algérie. Ça, c'est d'une part. Et puis, on verra d'autre part. Et d'ailleurs, la bande dessinée se termine sur cet autre épisode où vous allez être une fois de plus confronté à un choix très dur. Quand, une fois l'Algérie est indépendante, vous allez décider de revenir en France et de revenir à Saint-Étienne pour jouer. Mais commençons d'abord par votre choix de quitter la France pour rejoindre l'équipe du FLN, ou qu'on appelait l'équipe du FLN. Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Parce que c'était une manière aussi pour vous de vous positionner par rapport à l'Algérie, mais c'était aussi un sacrifice.
Écoutez, je crois que la chose qui m'a fait décider à partir, c'est justement Haribi et Kermali, ces deux garçons de Sétif qui ont été choisis par le FLN pour venir me voir parce que vous savez que chez nous, en Algérie, l'aîné est très respecté. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de partir. La seule question que j'ai posée à M. Haribi, c'est que Je lui ai dit, moi je suis militaire. La seule chose qu'il m'a répondu, il m'a dit, et alors ? C'est-à-dire, et après ? Qu'est-ce que tu crois ? On part, et après tu verras. Donc c'était un moment difficile, mais un moment facile avec les deux garçons de Sétif, qui étaient conscients qu'ils ne devaient pas m'emmener en galère. Au contraire, on a retrouvé une équipe, on a trouvé une assise et aussi des amis et des camarades.
Mais vous saviez que vous alliez perdre quelque chose, vous alliez perdre votre statut de footballeur star en France.
Non, vous savez, cette histoire de star, c'est aléatoire, c'est rien du tout finalement, parce que, on peut perdre ce statut, mais c'est quand même un statut qui a été bâti par la presse, par les gens, par tout ça. Donc ça pouvait être récupérable. Et je crois que je l'ai récupéré, puisque avec cette équipe du FLN, c'était merveilleux et c'était un football de rêve. Ce que j'ai gagné avec cette équipe, dans la vie, dans ma tête, dans ma façon de vivre, je ne l'aurais jamais eu avec de l'argent et tout ce que j'aurais pu gagner.
Ça, c'est ce que vous dites après coup. Mais sur le coup, quand on vous demandait ça, vous saviez que vous alliez vous sacrifier pour une cause ?
Non, pas de sacrifice, parce que finalement, il y a d'autres qui se sont sacrifiés autrement, des maquisards, des pères de famille, des ceux qui ont perdu beaucoup. Moi, c'était pas une perte, puisque je continuais à jouer au football avec cette équipe FLN, et mieux qu'avec Saint-Étienne, puisque Saint-Étienne était à ses débuts de progression, etc. Donc avec cette équipe FLN, avec des garçons comme Bentifour, Brahimi, Bouchou, Kermali, Roy, tous ces garçons qui étaient au top et que j'étais un élève pour eux.
Quand vous dites « j'étais un élève », vous étiez aussi un disciple de leur discours militant. Est-ce que vous étiez déjà militant et convaincu de la nécessité de se battre pour l'indépendance de l'Algérie ?
Totalement. Vous savez que je suis de Sétif, ainsi que Kermali et Haribi, à Marouaï aussi. Donc c'est une ville de révolte, c'est une ville vous savez, 1945, les 80 000 morts de Sétif, etc. Donc on a un peu ça dans le sang et on a un peu ça dans notre démarche. Et ça m'a un petit peu encouragé, ça m'a aidé. Et c'est pour ça que je crois que cette équipe FLN, le contraire de m'avoir gâché ma vie, au contraire, elle m'a fait un honneur d'être avec elle, d'être parmi elle et de participer à cette révolution qui a énormément donné au peuple algérien.
Tant que vous avez joué plusieurs matchs à travers le monde avec les couleurs du FLN, de l'Algérie, et puis à l'indépendance, ça c'est la fin de l'histoire de cette bande dessinée éditée par Dupuis, Un maillot pour l'Algérie. À la fin, vous allez être confronté une fois de plus à un choix décisif. Une fois que l'Algérie est indépendante, vous avez envie de regagner la France pour jouer avec Saint-Étienne, parce que pour vous, il reste un contrat moral. Vous étiez sous contrat avec Saint-Étienne et on voit très bien les discussions qu'il y a eu avec les autres footballeurs de l'équipe du FLN. Faut-il rentrer? Faut-il au contraire rester ici pour construire le pays, construire le football algérien? On vous voit même, je ne sais pas si ça fait partie de la fiction, parce qu'il y a c'est un peu fictionné dans la bande dessinée, mais on vous voit même demander la permission au premier président algérien, le président Ben Bella, qui vous dit: moi aussi j'étais footballeur, donc je comprends, moi aussi je suis attaché à l'OM, donc je comprends très bien, vous pouvez partir et rejoindre Saint-Étienne, la guerre est maintenant finie. Mais il y avait autre chose, c'est-à-dire comment les Français allaient vous accueillir après, après votre départ en clandestinité, après votre, votre militantisme au sein de cette équipe algérienne. Et d'ailleurs, ça se termine avec ce moment dramatique très fort.
Vous savez, d'abord, Saint-Étienne était ma ville de réception. Quand je suis parti de Sétif, je suis allé directement à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, je trouvais une famille. Quelle est la famille? C'était l'entraîneur Jean Snella qui était là-bas et qui m'a énormément aidé dans ce domaine de football, d'éducation. C'était mon second père, pour ainsi dire. Et c'est pour ça que mon désir de revenir à Saint-Étienne était grand. Et je ne savais pas si je pouvais aller ou non. C'est pour ça que j'ai demandé au M. Bembella, qui était président de l'Algérie, du GPRA, si je pouvais. Je pensais que j'allais recevoir une réponse négative. Je pensais qu'il allait me dire, bon, maintenant, on va construire notre pays, etc., etc. Non, lui au contraire, il m'a dit, mais bien sûr, si on s'est battu pendant 8 ans, ce n'est pas pour aujourd'hui bloquer nos citoyens avec la censure. Donc tu peux aller à Saint-Étienne. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, d'abord, il y avait beaucoup de remue-ménage, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que je revienne, surtout les gens de l'OAS, surtout les Pieds-Noirs. Mais la majorité de la population stéphanoise était pour, et surtout les joueurs. Les joueurs étaient aussi, ils ont oublié que j'étais parti 4 ans avant, en les laissant tomber.
Merci beaucoup, Rachid Makhloufi.
Farrokh le qalbi, ya ben ami.
Le générique de fin par Rachid Makhloufi. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui. C'est un honneur, merci.
C'était un autre jour et possible. Une émission de Tawfiq Hakam, réalisée par Thomas Luther, avec la participation de Pascaline Bonnet et de Anaïs Isberg. On peut retrouver cette émission sur franceculture.fr
pour le podcast et l'écoute en ligne. Vous écoutez la radio, Rachid Makhloufi?
Eh bien oui, j'écoute la radio, mais le matin de bonne heure. Donc je vais vous entendre.
Merci Rachid Makhloufi.
Ah, yes, arrête.